Allons entendre Jean-Claude Scott. Je le présente très rapidement. Jean-Claude a une formation de philosophe, philologue, linguiste, et il est psychanalyste au Luxembourg. Jean-Claude a publié plusieurs ouvrages, notamment c'était le... C'est pas grave. Non, il parlait des diapos. Plusieurs ouvrages, je disais, chez De Book au départ, et notamment, c'est le produit de ta thèse, hein, un ouvrage que je vous recommande par rapport aux questions qu'on avait hier d'ailleurs, aussi sur l'objet, le sujet, etc., là, qui s'intitule La science des philosophes. Et un autre ouvrage aussi qui est une belle introduction à la théorie de la médiation aussi, parce que Jean-Claude se situe dans le cadre du même modèle, qui s'intitule La raison éclatée. La raison éclatée. Mais, par ailleurs, vous voyez, il vient de sortir trois gros ouvrages. L'ensemble s'appelant Still Lost in Translation. Je donne les titres, Jean-Claude, de chaque tome. Le premier s'intitule « Freud, un indispensable étranger ». Le second, « Méditation cartésienne et anticartésienne ». Et le troisième, « D'un Oedipe à l'autre, de Freud à Sophocle ». Je m'en tiens là, Jean-Claude, tu ajouteras ce que tu voudras. Et je te laisse la parole.
Merci. Ça va, vous m'entendez là ? Plus près ? Comme ça, ça marche ? Ouais. Ok. Je rajouterai seulement que je ne suis donc pas à l'université, contrairement à ce qui aurait pu. Même si ça m'arrive de faire de la recherche, d'écrire, de réfléchir, de publier, etc. Alors, le titre que j'avais donné, comme ça, bon, c'est « La structure de l'Oedipe ». Est-ce qu'il y a un Oedipe ou est-ce qu'il y en a deux ? Ben, je vous dis tout de suite, il y en a deux. Bon, voilà, celui de Freud, celui de Sophocle, et ce n'est pas du tout le même. Ce que j'ai envie de faire, c'est de vous parler, en répondant sans doute à la demande de quelqu'un là-haut, de sociologie à la manière médiationniste, à la manière de Gagne-Pain, c'est-à-dire au fond de circonscrire le champ d'une sociologie clinique. Sachant qu'une sociologie clinique se doit, en référence aux réalités cliniques, de parler de la personne et donc pas d'autre chose. C'est-à-dire, il ne faut pas que ce soit une axiologie qui parle de la norme. Ce qui est difficile quand on part à partir de la psychanalyse ou à partir de Freud. Deux yeux, ça veut dire qu'il faut parler de deux choses, d'où les deux Oedipes, de deux faces. De même qu'en glossologie, on parle d'une analyse structurale phonologique et d'une analyse structurale sémiologique, ben on parlera en sociologie, pardon, de deux faces de la personne. Hein. On utilisera d'autres concepts, on parlera plus de signifiant et de signifié, mais d'instituant et d'institué. Ou si vous voulez, je vous le dis tout de suite, d'une problématique de l'alliance et d'une problématique du métier. Voilà. Au passage, je dirais quand même quelque chose, parce que c'est finalement autour de ça que ça tourne, toute la question, autour de la notion de structure, ce qui pour moi veut dire autour d'une idée d'un possible, mais un possible fini, parce que structuré, défini qualitativement ou délimité quantitativement. Cette notion de possible, d'ailleurs, elle est très polysémique. Je vais essayer, ici et là, de préciser un peu. Alors, je me suis demandé, évidemment, mais qui parle à qui ? On ne sait pas. Hein. Qu'est-ce qu'on peut présupposer ? Quels sont les axiomes de base ? Ben, vous avez compris, sans doute, à partir de l'exposé de Jean-Yves, qu'un axiome de base, pour moi, c'est qu'il y a un seuil humain, un fonctionnement humain qui tranche, qui négativise un fonctionnement qui est déjà là, mais qui est animal. Hein, premier axiome. Deuxième axiome, d'ordre méthodologique, on va dire, comment est-ce qu'on va explorer ce seuil ? Ben, à partir de la clinique, en référence à des réalités cliniques qui sont à la fois diverses, hein, on doit les distinguer, et qui sont à la fois plurielles. Hein. C'est-à-dire, on va examiner la chose noso-analytiquement. Alors, idéalement, je vous présenterai quoi ? Je vous présenterai le modèle de la médiation, et puis par analogie avec la glossologie, par exemple, la théorie sociologique avec des concepts, etc. Et puis je ferai le tableau des réalités cliniques à titre d'hypothèse, et éventuellement je rendrai compte d'expérimentations qui ont été faites, de confrontations répétées, etc., qui prouveraient quelque chose de cet ordre-là. Bon, ça c'est idéalement parlant. Dans le monde où je vis, c'est pas le monde idéal, c'est un monde surtout d'un praticien. Hein. Ce qui veut dire quoi concrètement ? Ben, que je vais m'y prendre autrement. Je vais essayer de faire comprendre, ou d'essayer de comprendre pour moi-même, simplement de quoi il s'agit. De quoi parle-t-on exactement ? En confrontant justement l'Œdipe de Freud, en le critiquant, et en parlant ensuite de l'Œdipe de Sophocle. Cela étant, j'aimerais quand même dire quelque chose, justement à propos de cette notion de structure. Ou d'impossible fini, parce que structuré. Si vous prenez, par exemple, bon, on peut dire glossologiquement que nous vivons dans un monde de sens, infini, quantité de sens possible, mais infini, variété de sens possible, mais à l'infini, il n'y a pas de limite. Par contre, dès que nous parlons, nous introduisons de la structure, nous structurons. Je vous donne un exemple. Prenons une identité structurale, sémiologique, hein, au niveau du sens. Ce qui résulte donc d'une opération de différenciation. Prenons le mot, pour utiliser le concept exact, il faut dire, prenons le sème « ballon ». Ben, c'est quoi « ballon » ? C'est du signifié. Bon. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça a plus d'un sens possible. Ça a divers sens possibles, mais pas à l'infini. Hein. C'est tous les sens possibles, sauf ceux qui sont signifiables par un autre élément. Structural, par d'autres sèmes. Exemple, si je vous dis ballon, ça veut dire quoi, ballon ? Ben, je ne sais pas. Si je demande un ballon de rouge, on va m'affrir, on va m'apporter dans un bar, hein, un verre de vin. Par contre, si je parle de ballon, il pourrait aussi se faire que je parle d'une montgolfière, ou d'un ballon de football, ou d'un ballon de fête d'anniversaire. Ça veut dire quoi ? Eh bien, que le signifié, c'est du possible, mais limité. Hein. Le sème est polysémique. Il n'est pas pantosémique, il est polysémique. Et en situation, selon la situation, si je me trouve dans un bar à Paris et que je demande un ballon de rouge, il est peu probable qu'on va m'apporter une montgolfière, hein. M'apporter un verre de vin. Bon. Ben oui, c'est-à-dire qu'en situation, à partir d'une structuration implicite, je choisis un des sens possibles. Je synonymise, j'établis une équivalence de fait. Bon, alors, comme Jean-Yves l'a expliqué, il y a des gens, à savoir les aphasiques de Wernicke, pour qui ça ne marche pas parce qu'ils ne structurent pas ces identités et ces différences. Ça donne des résultats bizarres. En plus, on pourrait imaginer deux mondes ou deux états limites. Un premier dans lequel le locuteur, quand il parle, quelle que soit la situation, au fond, au lieu de synonymiser sélectivement, eh ben, il réifie, pour ainsi dire, tous les sens possibles de ce sème-là. Alors ça donne un monde extrêmement ambigu. Un autre état limite inverse serait qu'au contraire, en chaque situation à nouveau, ils se restreignent à synonymiser d'une manière seulement, comme si ballon, c'était toujours un verre à vin. C'est des mondes bizarres. Maintenant, si je me place par analogie dans un autre monde, qui est le monde de la sociologie, qu'est-ce qui se passe ? Ben, je vous poserai par exemple la question, qu'est-ce que c'est un Européen ? Et alors, selon la réponse, selon les uns et les autres, selon la personne à qui vous avez affaire, si vous demandez ça, par exemple, à, je ne sais pas moi, le président de la Tchéquie ou de la Slovaquie, je ne sais plus très bien comment il s'appelle, M. Fico, ou si vous demandez ça à bon nombre de Polonais, ils vous répondront « Ah, c'est des chrétiens ». Mais si vous posez la question à quelqu'un d'autre, il ne répondra pas ça, il répondra « Ah non, non, si c'est un émanistaté, ah non, ça peut être un chrétien, mais ça peut aussi autre chose. » Voilà. Il y a des équivalences possibles selon ce qui est. Et vous voyez bien qu'on est dans un domaine extrêmement explosif, conflictuel. Pour tout dire. Et qu'encore une fois, il y a des gens peut-être qui maintiennent toute cette polysémie, entre parenthèses, hein, parce que c'est un concept analogique, il faudrait dire en fait polystasie, bon, peu importe, c'est un concept technique, qui maintient toute cette diversité possible, ou d'autres qui au contraire la réduisent à l'absolu et qui ne tranchent jamais, qui ne changent jamais, quelle que soit la position, De quoi ? De cette identité qui vont mettre là-dedans in concreto. Si on prend maintenant la question, je dirais encore ceci, j'ai posé cette question, qu'est-ce qu'un Européen ? C'est pas par hasard, c'est parce que, quand je parlerai de l'Œdipe de Sophocle, la question, une des questions centrales, une des deux questions en fait, c'est qu'est-ce que c'est un étranger ? Qu'est-ce que c'est un Thébain ? Qu'est-ce que c'est un Corinthien ? Est-ce qu'on peut être Corinthien et Thébain à la fois ? Est-ce qu'on peut être étranger et Thébain à la fois ? C'est bien de ça qu'il s'agit dans la pièce. Maintenant, si on se place sur l'autre face de la personne, à dite hypothèse, qui est la face du métier, et pas la face des appartenances ou du rapport à l'autre, comme a dit Jean-Yves, sur la face du métier, si je vous pose la question, qu'est-ce que c'est un universitaire ? Il y en a dit, c'est quelqu'un qui rend certains services, plusieurs services possibles, justement. Il peut être quelqu'un qui fait de la recherche, oui. Il rend ce service-là à la communauté, potentiellement. Il peut enseigner, il peut faire passer des examens, évaluer, il peut siéger dans des commissions ministérielles, il peut organiser des colloques, etc. Enfin, voilà, il y a plusieurs choses, plusieurs fragments qui déterminent ce qu'on appellerait là, alors, un établissement, qui est une unité structurale, hypothèse, j'essaie de comprendre simplement de quoi il s'agit, et on dirait qu'il y a un programme minimal de choses qu'il faut faire. Si le type ne fait pas de la recherche ou n'enseigne pas, c'est peu probable que ce soit un universitaire. En même temps, être un universitaire, c'est quand même faire autre chose qu'être le transporteur public, organiser les trains pour les voyageurs, c'est autre chose que la restauration, c'est autre chose que l'hôtellerie. Mais il se fait que l'universitaire qui organise un colloque, il s'est occupé de me transporter, de m'héberger, de me nourrir. Pourquoi ? Mais parce qu'il y a plusieurs métiers qui se mettent ensemble, syntaxiquement, si vous voulez, toujours entre parenthèses, et tout ça parce qu'à travers cette pluralité de métiers possibles, il maintient quoi ? Une identité. C'est le principe de la syntaxe. C'est-à-dire qu'il veut faire de la recherche. Bon. Si on prend ce mot « recherche », mais il ne s'agit pas d'un mot, il s'agit d'une réalité sociologique, la recherche c'est quoi ? Si on le regarde alors au point de vue de l'identité, et non plus au point de vue des fragments d'une quantité, d'un programme minimal, mais au point de vue de l'identité et de la différence. C'est quoi la recherche ? Ça peut être des choses diverses. Pour l'un, ce sera de la recherche fondamentale. Pour l'autre, ce sera de la recherche expérimentale à labo. Pour un autre, ce sera de la recherche statistique. Pour un autre, ce sera de la recherche historico-comparative. Pour certains, ce sera la recherche clinique. Pour d'autres encore, ça pourrait être du journalisme d'investigation. Pour d'autres encore, même, ça pourrait être de la recherche astrologique, etc., etc. Vous voyez, dès que je parle d'astrologie, probablement, on se rend compte qu'on est dans quelque chose qui est potentiellement extrêmement conflictuel. C'est-à-dire que si on parle de différences, de pluralité au niveau sociologique, il faut savoir de quoi on parle. On parle de champs où il y a du conflit. Alors pourquoi je prends le métier d'universitaire et pourquoi je m'intéresse particulièrement à la recherche ? C'est parce qu'encore une fois, dans la pièce de Sophocle, l'Œdipe, ce qui est central, à côté du fait de ses appartenances, alors du point de vue du métier, c'est la question de la recherche, de la construction d'un savoir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a le conflit entre Œdipe, d'une part, qui prétend rendre service à la cité au nom d'un certain type de savoir, et puis il est en conflit avec qui ? Un autre gars qui s'appelle Tirésias, qui s'autorise d'un savoir mantique. Bon, voilà. Alors, passons à Freud. Passons à l'Œdipe freudien. Première phase de la problématique, à condition de déconstruire et de dégager la problématique. J'aimerais faire la différence entre le complexe d'Œdipe et la problématique œdipienne, c'est-à-dire l'entrée, la traversée et la sortie ou le déclin de l'Œdipe. Si on parle du complexe d'Œdipe au sens strict du mot, on parle de quoi ? On parle, comme il dirait, d'un complexe de représentation, Vorstellungen, toujours singulier selon la personne à laquelle on a affaire, mais toujours bâti, selon Freud, à partir d'un noyau, qu'il appelle le noyau du complexe d'Œdipe, der Kern des Oedipus Complexes, qui est pour lui en même temps, c'est important, le noyau de toute névrose. qu'un complexe der Neurosen. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, dans ce noyau? Il y a deux souhaits. Wünsche, c'est le terme qu'il utilise. Un souhait incestueux à l'égard du parent de l'autre sexe et un souhait meurtrier à l'égard du parent du même sexe. Alors ces souhaits, et la personne en question, le sujet, essaye de les satisfaire. Sauf que ici oppose quoi? Ce qu'on pourrait appeler de manière très vague de la loi, c'est-à-dire il y a un père qui dit « Oh les gars, ça va pas, interdit ». Et puis il faut aller voir ailleurs, parce que là c'est permis. Il y a donc des interdits et des impératifs. Hein. Donc les souhaits, on cherche à les satisfaire, mais pas comme on veut, plutôt comme on peut, selon la situation, ce qui présente comme occasion, et puis selon ce qu'il faut, puisqu'il y a des interdits et des impératifs. Alors ce nucléus-là, il se développe par toutes sortes de complications, ce qui fait qu'on parle justement du complexe d'Œdipe. Hein. Parce qu'ils sont refoulés suite à cet interdit-là par l'enfant, ça devient un univers très individualisé selon la personne. Bon. Vous avez remarqué que quand on parle de souhait ou de pulsion, peu importe, on s'installe directement dans autre chose chez Freud que dans ce qui serait strictement d'ordre biologique. On s'installe dans un registre psychologique, métapsychologique, si vous voulez, anthropologique. Bon. Deuxièmement, la problématique oedipienne, alors c'est quoi ? Bon, c'est quelque chose, effectivement, de très affectif, de très passionnel, mais c'est surtout un drame à trois personnages. Un homme qui est un père, une femme qui est une mère, et un enfant qui peut être un garçon ou une fille. Ce qui est important, toutefois, c'est que ces trois personnages entretiennent deux types de rapports asymétriques. Des rapports structurés par une différence sexuelle, et puis des rapports structurés par une différence de responsabilité, on pourrait dire, générationnelle, toujours en parenthèse parce que c'est des concepts assez vagues. Bon, il y a plusieurs réflexions qu'on peut faire. Ces différences-là, elles sont à construire, elles ne sont pas là, elles ne sont pas données. Hein. Puis il y a plusieurs étapes cruciales. Il y a l'étape de la culmination du complexe d'Œdipe entre 3 et 5 ans, et puis il y a l'étape de la puberté. On pourrait même dire qu'il y a un troisième moment crucial. C'est quand les pulsions qui cherchent satisfaction en fait, se réorientent du corps propre vers quelqu'un d'autre. Et on peut aussi faire l'hypothèse qu'il y a des enfants qui n'arrivent pas à faire ça. Voilà. L'Œdipe du garçon, là, la problématique du bien du garçon, ce n'est pas celle de la fille, il y a des formes positives. C'est très compliqué. Deux, trois réflexions peut-être encore quand même. On peut parler là d'une structure parce qu'il suffit qu'un de ces trois personnages ne soit pas là ou n'exerce pas sa fonction et le truc ne marche plus. Ou il marche tout à fait différemment. Il suffit par exemple aussi qu'on ajoute un quatrième personnage qui serait la belle-mère, par exemple. Les choses se compliquent. Hein? Ou qui est un frère, une sœur, une fratrie, les choses se compliquent. Donc il s'agit bien d'un système de valeurs au sens saussurien de mots. Ce qui est important aussi, c'est que Freud parle là d'une problématique qui n'est pas d'ordre sociologique. Les diverses positions que peuvent occuper les personnages, hein, c'est des positions sociales, c'est pas des positions biologiques. Ce qui veut dire concrètement qu'un père, par exemple, il peut être mort, mais pas défunt. Défunt, c'est-à-dire defunctus, hors fonction, symboliquement parlant, comme on dit. Hein. Sa loi, elle peut marcher, même s'il n'est pas là. De même, quand on parle de cette asymétrie au niveau de la différence sexuelle, soyons clairs, le mâle, c'est pas le masculin ou l'homme. La femelle, c'est pas la femme. Hein? Bon. Maintenant, on peut poser plusieurs questions, d'une part à propos du complexe d'Œdipe, hein, ces deux souhaits, et d'autre part à propos de cette problématique. Prenons le complexe. Il y a deux souhaits. Est-ce qu'ils sont au même niveau ? Tant au regard génétique qu'au regard de l'importance, la réponse est très claire. Chez Freud, non. Si on regarde l'invention, la découverte du complexe d'Œdipe dans les lettres à Flies, c'est des pages et des pages et des pages très intéressantes. C'est rare qu'on voit une idée se construire comme ça, hein, d'une découverte. On voit très clairement qu'il y a une priorité tant génétique qu'en importance du motif sexuel incestueux. Et ce n'est pas seulement dans ses lettres où il parle de la découverte, c'est aussi dans des textes qui jalonnent toute sa carrière. Je vous passe les détails, ce n'est pas important. Et puis, ce n'est pas par hasard non plus que quand Freud parle des pathologies, il dit Oui, je suis d'accord. Dans la vie humaine, il y a toutes sortes d'intérêts, hein, toutes sortes de choses qui mobilisent les gens. Mais quand les gens sont malades, c'est toujours au lieu de la sexualité que quelque chose ne marche pas. Bon. Première réflexion donc, à propos de ces deux souhaits, hein, qui sont quand même... il y a une priorité là. Deuxième réflexion, si on parle alors de cette problématique à trois personnages, on peut se poser mais, la question, mais qu'est-ce que le père vient faire là-dedans ? Eh bien, le père, c'est cet individu qui, pourrait-on dire, interdit et permet à la fois. Hein, et il interdit quoi ? Ce qui n'est pas possible, ce qui veut dire ce qui n'est pas socialement admis, ce qui n'est pas légitime en société. Et d'autre part, il permet, il dit, voilà, rapport sexuel incestueux, c'est pas permis, mais oui, il y a d'autres femmes, allez-y, c'est bon, cherchez ailleurs. Hein. Donc, il fait le partage entre l'interdit de société et le permis de société. En un endroit spécifique, premièrement, le rapport sexuel. Ce père, le statut de ce père change. Hein. Au départ, c'est un rival puissant dont l'enfant dépend, puis ça peut être un père qui est en cette capacité-là refoulée, et puis finalement ça devient un père efficace, même s'il est mort, qui a transmis la loi à un enfant qui lui-même pourra, à l'égard de ses propres enfants, exercer la même loi, les mêmes interdits, les mêmes impératifs. Alors l'enfant, lui, de son côté, qu'est-ce qu'il est supposé faire face à ses interdits et ses permissions ? Eh bien, il est supposé refouler, et puis chercher, explorer la réalité en quête de satisfaction alternative dans le domaine sexuel. Hein. Au total, si on regarde Freud alors, qui vous parle de l'accès de l'enfant à la vie en société, qu'est-ce qu'il vous dit Freud ? Eh bien, il vous dit que le refoulement est un processus non pas du tout pathologique, mais souhaitable et nécessaire pour l'accès de la vie en société de l'enfant. Ce qui revient à dire qu'on ne peut pas opposer d'une part les gens normaux et d'autre part les névrosés, mais plutôt les névrosés de tous les jours qui sont les normopathes. Et puis d'autre part, les névrosés graves qu'on va... Il y en a, hein, on les voit en pratique privée, mais on les voit aussi à l'hôpital. Hein, chez qui, ça c'est la manière freudienne d'en parler, chez qui le refoulement au fond n'a pas bien fonctionné, de sorte qu'il y ait des retours de refoulés, des symptômes, etc. Alors, si j'avais plus de temps, je vous parlerais d'un livre extrêmement intéressant, qui est vieux d'une cinquantaine d'années, qui est L'Œdipe africain, de Marie-Cécile et Edmond Ortigue. On peut éventuellement y revenir pendant la discussion. Ce qui m'importe surtout, c'est qu'au fond, la théorie freudienne, je reviens à ma question, qu'est-ce que c'est une théorie, une théorie sociologique de la personne, qu'est-ce que c'est une théorie de la norme ? Au fond, la théorie de l'émergence à la vie sociale de Freud, c'est une théorie parfaitement névrotique. Voilà. Qui est-ce qui parle en premier lieu ? Ce n'est pas le sociologue, c'est un être moral. Voilà. Qui est surtout occupé par la question de la régulation économique et de la réglementation, on pourrait dire topique et dynamique, en termes freudiens, du plaisir et du déplaisir. Voilà son angle d'approche. Peu importe de quoi il parle, et voilà aussi l'angle d'approche, on peut le légitimer, c'est un choix, des psychanalystes en général, je dirais. Voilà. Le socius freudien, si vous voulez, c'est quelqu'un qui a intégré des interdits et des impératifs. Bon. Alors il me semble à moi, je le dis en tant que médiationniste, que Freud, au fond, y confond le lieu d'un déterminisme spécifique et les occasions de manifestation de ce déterminisme qui sont infinies. Je m'explique. Évidemment que nous partageons des interdits, peut-être même qu'il y en a qui sont universels. Hein? Mais je fais remarquer que nous partageons aussi des transgressions. Hein? Et puis, de toute manière, nous partageons infiniment plus que des interdits et des transgressions. Exemple, moi j'habite au Luxembourg, si vous vous promenez en ville, dans la capitale du pays, eh ben, vous voyez un tas de gens qui portent un uniforme. Alors, ce n'est pas des flics ou des facteurs, hein, c'est des banquiers. Ils portent un uniforme. Alors, à me dire, bah oui, ils portent un uniforme parce qu'ils doivent. Mais ça veut dire quoi, ils doivent ? Ça veut dire que c'est interdit de porter autre chose ? Je ne crois pas. C'est plutôt indécent de porter autre chose. Ce n'est pas approprié. Ça veut dire quoi ? Que, au fond, celui qui se présenterait comme banquier, sans l'être, parce qu'il porte quoi ? Ces emblèmes d'une appartenance, d'une identité, eh bien, il pratique quoi ? Il pratique de l'imposture perverse. L'interdit n'a rien à voir là-dedans. C'est un habit d'identité dont il s'agirait. Donc on partage, oui, on partage un tas de trucs. L'objet spécifique à étudier par une sociologie, ce n'est pas ce qu'on partage, la matière, la substance, c'est le fait du partage, les principes de la mise en partage. Et je vous fais remarquer que le sens exact du mot « loi », nomos en grec, c'est exactement ça. Nomos, oui, ça a le sens d'us et coutumes, etc. Mais ça a avant tout, en premier lieu, le sens de partage, le fait de tracer des frontières arbitraires. Le nomos, par exemple, très concrètement, c'est le territoire d'une cité. En dehors, c'est quoi ? C'est la nature sauvage ou c'est une autre cité ? C'est ça que veut dire le nomos. Et ce n'est pas la même chose que la diké ou la norme. Alors vous allez me dire, mais alors qu'est-ce qui fonde au fond au regard de la sexualité notre vie sociale ? Eh bien, je dirais assez simplement, ce qui fait que nous soyons des animaux qui vivent en société au regard de la différence sexuelle, c'est que, je l'ai déjà dit, c'est que l'homme ou le masculin, c'est pas le mâle dans aucune société, et c'est que la femelle, dans aucune société, peu importe comment ça se concrétise, dans aucune société, la femelle, c'est la femme. Deuxièmement, si vous regardez l'autre face, alors qu'est-ce qui institue du social du point de vue de la génération, c'est-à-dire ce rapport au fond entre les petits et les grands, hein, des petits qui ne sont pas encore capables d'engendrer, des grands qui le sont, et qui en plus élèvent des petits, qu'est-ce qui fait que ça se transforme en rapport social ? On pourrait dire, c'est l'accès, en termes psychanalytiques, au principe de paternité, ou de manière plus générale, au principe de responsabilité. C'est-à-dire, c'est la transformation de cet univers animal en ce que, par exemple, les Ortig appellent un système d'allégeance et d'obligation, un système de devoirs et de prérogatives. Alors, on va passer au texte grec. Et je dirais tout de suite, si vous voulez comprendre les textes grecs, par exemple, mais pas seulement, hein, tous les textes, les épopées, même la poésie dite lyrique, les textes de l'Antiquité classique, les drames, l'historiographie, etc. Enfin, les textes pendant 200-300 ans, plus ou moins, hein, l'époque archaïque et classique, vous ne comprendrez pas grand-chose, à mon avis, si, un, vous présupposez, comme Freud, d'un point de vue axiologique, que la vérité du sujet, c'est-à-dire ce qui vaut finalement d'en être dit, en l'occurrence par le poète, hein, que cette vérité du sujet est à chercher du côté de la sexualité, plus exactement des destins, des pulsions sexuelles, du renoncement exigé par la société, du refoulement, etc., des souhaits primordiaux, sexuels en particulier. Donc, si vous pensez, comme Freud, que la vérité du sujet est à chercher surtout de ce côté-là, vous n'allez pas comprendre les textes, parce que dans les épopées, dans le drame attique, etc., la vérité du héros, elle se cherche avant tout de l'autre côté, de l'autre face. La problématique est toujours vectorisée vers l'autre face, c'est-à-dire du côté où s'éprouve, au risque de la mort, hein, les devoirs du héros. La revendication de ses privilèges, de ses prérogatives, l'exercice du pouvoir. Deuxième présupposé freudien qui vous empêchera de comprendre les textes, eh bien, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est que la vie en société est basée sur des interdits partagés. Parce que la problématique de la distribution du pouvoir, qui est donc centrale dans tous ces textes, ou de la transmission du pouvoir, qui est une transmission extrêmement élitaire, même dans une cité dite démocratique, hein, parce qu'il y a beaucoup d'individus qui ne comptent pas aucun pouvoir. C'est des esclaves, voire des étrangers, etc. Eh bien, la distribution du pouvoir, ce n'est pas la même chose que la légitimation du pouvoir. Ce qui veut dire, concrètement, si vous instituez quelqu'un dans une lignée, ce qui se passe, ce n'est pas que le pouvoir soit légitimé. Ce qui se passe simplement, c'est qu'il soit monopolisé par certaines personnes et que les autres sont exclus. C'est tout. Sociologiquement, c'est de ça qu'il s'agit. Bon. Alors, je ne vous parlerai pas des épopées homériques, ce serait intéressant, mais trop long. Parlons tout de suite de la poésie dramatique, tragique. Le poète dramatique, l'auteur de tragique, comme Sophocle, hein, c'est un artiste, oui, comme Homère. C'est quelqu'un qui relate des événements situés dans un passé légendaire où il y a des actions de divers personnages, les héros et les dieux. Oui, comme Homère. Puis c'est aussi quelqu'un qui a, comme Homère, la prétention de dire vrai, de dire ce qui vaut la peine, hein, d'être su. C'est quelqu'un qui a la prétention, pour utiliser mot du contexte grec, d'être un sophos, un sage. Mais ça s'arrête là, la comparaison. Pourquoi ? Sophocle n'est pas Homère. Et la tragédie athénienne n'est pas l'épopée homérique, panhellénique. Ça veut dire quoi ? Ben que, au fond, le poète dramaturge, qui représente ses pièces au théâtre, au pied de l'Acropole, ben, il instruit les citoyens du moment. Pas tous les Hellènes, comme Homère, dont les textes ont servi pour l'instruction de base pendant des centaines d'années, quel que soit le régime politique. Hein. Ça veut dire aussi que le poète tragique s'approprie cet héritage légendaire dans le contexte de la cité nouvelle, une cité nouvelle qui a dû se réinventer pour devenir ce que nous appellerions peut-être pas une démocratie, mais un régime isonomique, où il y a des égaux, même s'ils sont très limités en nombre, hein, et qui a dû se réinventer à plusieurs reprises à travers les réformes d'Éphiale, de Clisthène, de Solon, de Périclès, etc., au risque tout le temps d'un désordre, mais complet, de la destruction même de la cité, c'est-à-dire au risque d'une anomie, le contraire du nomos. Alors, il y a ces personnages qui sont les dieux et les héros. Bon, les dieux de l'Olympe agissent toujours dans la tragédie. L'action du drame est impensable sans ces dieux-là. Remarquez, il y a une énorme différence entre le Zeus en trône de l'Orestie d'Eschyle et le dieu de la machine de Ripide. Ce qui est plus important toutefois, c'est que le théâtre tragique, il est situé dans le contexte des Dionysies annuelles, les grandes fêtes en honneur du dieu Dionysos. Le dieu Dionysos, dans les épopées homériques, par exemple, il joue quasiment aucun rôle. Il apparaît, mais c'est tout. Il est toujours présenté comme un dieu qui vient de l'étranger. En fait, on sait que c'est un dieu qui est déjà là dans le panthéon grec à l'époque mycénienne. C'est curieux que dans certains textes, il n'apparaisse pas du tout. La tragédie est écrite et jouée en son honneur. Ça veut dire quoi ? C'est qui, Dionysos ? Ben, c'est en tout cas pas Apollon qui est le dieu de la mesure. Dionysos, c'est le dieu de la démesure, hein, de l'aveuglement, de l'exagération. C'est, si vous voulez, le dieu de l'anomie, funeste, aux conséquences tragiques, qui est momentanément admis dans le cadre de la cité. C'est aussi le dieu masque, qui peut être démasqué. Ce qui veut dire quoi ? Concrètement, que les acteurs portent un masque, qui identifient leur personnage, etc. Mais ça veut dire surtout que les personnages de l'épopée homérique s'illusionnent sur ce qu'ils sont. Est-ce que je suis européen ? Est-ce que je suis thébain ? Et s'illusionnent aussi sur ce qu'ils doivent, quelles sont leurs obligations. Je suis tyran et donc je dois ceci et cela à un tel et rien du tout aux autres, etc. Autrement dit, qu'est-ce qui représente finalement le poète tragique ? Une espèce de fiction. Bah, quelque chose qui pourrait se passer, peut-être ça s'est passé dans un temps légendaire, hein, illo tempore, mais au total, on sait que c'est une fiction, c'est sur scène. Et puis après, on rentre à la maison, on a été pris d'effroi et de pitié, comme dit Aristote, mais au fond, c'est que du théâtre, quoi. C'est pas nous, c'est pas la vérité, c'est pas la réalité qui se passe. C'est ce qui pourrait se passer. C'est une fiction. sans risque. Le héros épique est un héros un et entier. Malgré la multitude de ses appartenances et de ses devoirs, il sait très bien quelle est sa position. Et au fond, d'un point de vue axiologique, il s'agit pour lui de prouver sa valeur en se surpassant au nom d'une morale héroïque, hein, en tenant sa place, sa position qui est bien établie. Le héros tragique, c'est tout à fait différent. Il n'est pas entier. Il est déchiré par la diversité et la multiplicité de ses appartenances, sur une face, et il est déchiré aussi par quoi ? Par des devoirs, des obligations irréconciliables. Alors le défi pour lui, ce n'est pas de prouver ce qu'il vaut et puis de se faire remémorer par la parole du poète en tenant sa place, il ne sait pas quelle est sa place. C'est plutôt de ne pas céder à la démesure et à l'aveuglement, compte tenu du fait qu'il agit dans le domaine de la praxis, de l'action, die Handlung, hein, qui n'est pas la poésie, justement, c'est-à-dire un domaine où on ne maîtrise pas ce qu'on est et ce qu'on doit, parce qu'on n'est pas le seul à agir, il y a d'autres personnages aussi qui agissent, qui interagissent, qui réagissent, et puis surtout en sa propre personne, on n'a pas un statut, mais divers statuts possibles, et on n'a pas une obligation, mais des obligations. Hein? La question c'est, au fond, comment, axiologiquement parlant, comment agir bien, en grec, eupraten, pour se porter bien. En grec à nouveau, eupraten, sans succomber, sans chuter à cause d'une démesure, hein, sans se fourvoyer en cours de route et sans rater son coup, sans amartia. Comme disent les Grecs, on traduit faute. Bon. Alors, il y a certains héros qui réalisent d'emblée qu'ils occupent plus d'une position. Hein, leur statut, c'est quoi? C'est ça. En plus. Et qui réalisent très bien qu'ils ont plusieurs obligations et qui se disent, dame, qu'est-ce que je fais là? Parce que si je fais ceci, c'est bien pour l'un, si je fais ça, c'est bien pour l'autre. Et l'inverse, hein, c'est bien pour l'un, mal pour l'autre, etc. Comment ils vont faire? Eh bien, c'est des héros tragiques, donc ils agissent quand même, et c'est tragique. Première figure de la vérité tragique. Deuxième figure de la vérité tragique est différente, et ça c'est le cas par exemple d'Oedipe. Il y a d'autres héros qui croient, qui s'illusionnent justement, hein, qu'ils occupent une position, je sais qui je suis et je sais ce que j'ai à faire, ce que je dois à qui. Et ils ne relativisent donc pas leur position et ils agissent avec des mesures. Et quand ils se rendent compte de la complication de leur position effective, ben c'est trop tard, c'est tragique, c'est funeste. Il leur faut quantité de péripéties et de renversements et de scènes de reconnaissance, comme dit Aristote, c'est-à-dire les peripéteia. À un certain moment, il est heureux, et puis le moment après, c'est la catastrophe. Et puis, il devient nouveau, etc. Et les reconnaissances, c'est quoi? On croit que c'est un Thébain, et puis on se dit, non, c'est un étranger. Ah non, c'est un Corinthien. Non, c'est quand même un Thébain. Voilà. À travers toutes ces péripéties, il arrive à savoir qui il est et ce qu'il doit. Mais c'est trop tard. Alors si maintenant on pose la question, pour parler de la pièce de Sophocle, qui est Oedipe? Quelle est sa position, hein, socialement parlant? Et puis aussi, quelle est sa vérité? Une vérité à découvrir. À découvrir parce qu'il y a tout un passé, son propre passé, ses propres actions au passé, et puis les actions de ses parents, de ses géniteurs et d'autres personnages. Et elle est à accomplir, parce que quand le drame commence, elle n'est pas encore accomplie. C'est une des vérités, on pourrait dire, en jouant sur les mots, comme en grec, à désoublier. Il doit sortir, en fait, de la cachette. Il ne sait pas qui il est, il le croit, il se trompe. Ça va sortir de l'oubli du passé, à l'éthéa, c'est de là que vient le mot en grec. Et bien, au fond, c'est très simple. Quelle est sa position? Sociologiquement, il occupe la position du tyran. Le tyrannos, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a un pouvoir d'exception, mais il ne l'a pas hérité, Il ne l'a pas non plus reçu par un tirage au sort, comme c'est le cas dans la cité démocratique. Il ne l'a pas non plus obtenu par une élection. Non, il l'a reçu, ou il a, soit il l'a conquis par la force, mais il s'appuie sur les faveurs populaires, soit il l'a reçu parce qu'il a rendu service à la cité, parce que la cité croit qu'il va encore pouvoir rendre service. Ce qui veut dire aussi qu'en tant que tyrannos, son pouvoir pourrait lui être repris, pourrait être donné à quelqu'un d'autre. Bon, sociologiquement, c'est ça la position qu'il occupe, c'est un personnage historique. Maintenant, axiologiquement, Oedipe, sa vérité c'est quoi? C'est encore une fois celle d'un tyrannos. C'est-à-dire, dans l'imaginaire grec antique, quelqu'un qui se conduit comme un tyrannos au sens moral du mot, extrêmement ambitieux, pas du tout prudent, aveuglé, démesuré. Un être passionnel, assoiffé de vérité. Quelle vérité? Eh bien, il veut savoir à tout prix, il construit, il recherche, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il recherche la vérité. Quelle vérité? Qui est le meurtrier de Laos? Pourquoi est-ce qu'il cherche réponse à cette question? Parce que la cité est frappée de pestilence. Pourquoi est-elle frappée de pestilence? Parce que le dieu Apollon a décoché ses flèches mortifères. Pourquoi est-ce qu'il frappe la cité de la pestilence? Parce que la cité héberge un meurtrier. J'attire votre attention sur le fait que la cité héberge un meurtrier et que donc il faut trouver le meurtrier pour guérir la cité, rétablir la justice lésée. L'oracle de Delphes ne dit pas que la cité est frappée de pestilence parce qu'elle héberge un incestueux. Il ne dit pas ça, hein? Voilà. Donc, au total, Sophocle n'aurait pas pu choisir un meilleur titre pour sa pièce que Oedipus Tyrannos, Oedipe Tyran. Quand vous lisez toutes les traductions de ce titre en néerlandais, en anglais, en français, en tout ce que vous voudrez, Oedipe roi, Oedipus rex en latin, Oedipus cone, ça n'a rien à voir. C'est vraiment pas comprendre de quoi parle la pièce. Je disais, quelle est sa position, quelle est sa vérité? C'est très simple, c'est un tyran, et il agit comme un tyran, avec des mesures. En même temps, c'est extrêmement compliqué. Pourquoi? Parce qu'il faut toute la pièce, toutes les actions, tous les renversements, tous les rebondissements, toute cette procédure judiciaire de type nouveau qu'Oedipe lance, c'est-à-dire la convocation des témoins oculaires, des passés de l'événement, le recoupement des témoignages, le raisonnement, pour arriver à dire, ah ben, le meurtrier, c'est moi-même. Il faut donc toute la pièce pour que Oedipe et les personnages réalisent sociologiquement qui il est et qui doit quoi à qui, et puis axiologiquement ce que vaut sa passion pour la vérité, pour le désoubli. Quand tout est joué, après toutes sortes de péripéties, ben Oedipe réalise sociologiquement qu'il est quoi? Qu'il est une antinomie, en chair et en os, la négation même des principes du partage qui institue de la cité, c'est-à-dire des places possibles, entendons des places négociables. Il occupe trop de places, trop de positions, c'est pas négociable, c'est impossible. Oedipe, au cours de ses rebondissements, n'arrête pas d'être altéré dans ses rapports à l'autre. Tantôt, il est personne, il est un étranger, tantôt, il est... un Thébain, tantôt il est un Corinthien, et au fond du compte, ben, il est quoi? Il est tout à la fois, c'est trop. Il n'est plus dans ce possible fini négociable, mais en trop à la fois. De même, du point de vue de ses obligations, il est trop à la fois. Parce qu'il est à la fois le fils, pardon, il est par exemple à la fois le père et le frère de ses enfants. Il occupe trop de positions à la fois. Et sa vérité, alors, il faut toutes les péripéties pour se rendre compte de quoi? Une vérité tragique. Qui est quoi, finalement? Mais qu'il est devenu, et ça c'est typique pour les tragédies, il est devenu exactement ce qu'il n'a pas souhaité, ce qu'il a cherché à éviter. C'est-à-dire, il est devenu parricide et incestueux. Il se rend compte aussi, c'est encore tragique, à nouveau, ironique, que quoi? Au moment où il se retrouve, au moment où il arrive à savoir vraiment d'où il sort, d'où il vient. Tout le monde, genos, comme il dit, mes origines, ma naissance. Eh bien, au moment où il se retrouve, c'est à ce moment-là qu'il se perd. De même, autre ironie, au moment où il se perd lui-même, il sauve la cité, etc. Hein? Donc, qu'est-ce qu'il est? Quelle est sa position? Quelle est sa vérité? C'est très simple et très compliqué à la fois. Alors, vous allez me dire, mais dites, au fond, est-ce que vous n'exagérez pas un peu quand même en prétendant que la pièce est totalement axée sur une face de la personne seulement, hein? Est-ce qu'on peut dire que l'Œdipe de Sophocle ne ressemble en rien à celui de Freud? Après tout, il est incestueux. Hein? Et Jocaste ne dit-elle pas quelque part, vers, je ne sais pas, 792 ou quelque chose, que tout humain a bien pu rêver un jour qu'il couche avec sa mère? Et est-ce que la pièce ne dit pas non plus que Jocaste se suicide à cause de l'inceste? Oui, oui, la pièce dit tout ça. Mais ce n'est presque rien comparé à la masse d'indications d'autres choses. L'Œdipe de Sophocle ne met pas en évidence la problématique d'une alliance pervertie, pas en premier lieu, ce n'est qu'un thème très secondaire, mais bien la problématique d'un métier, d'un pouvoir à transmettre, et c'est raté, il n'y parvient pas. Il ne parvient pas à exercer son pouvoir au service de la cité, au contraire, sauf à arrêter d'exister et s'exiler lui-même. Et il ne parvient pas non plus à transmettre ce pouvoir et ses prérogatives à ses fils. Alors on pourrait donner quantité d'arguments en examinant par exemple la dispute qu'il peut avoir avec Jocaste, en examinant les disputes qu'il peut avoir avec Créon, avec Tirésias, en examinant l'enjeu de son enquête judiciaire. Qui éclaire quoi? Qui éclaire pas le fait qu'il soit un homme et pas une femme, etc., hein? Qui éclaire, oui, le fait qu'il soit thébain, mais surtout le fait qu'il s'est trompé en croyant que son père est son géniteur. Il y a toute une discussion, et ça vous le verrez seulement si vous lisez bien le texte en grec, et vous verrez qu'il y a un jeu de mots perpétuel sur quoi? Sur d'une part ce qu'on appelle le pater, le père au sens social du mot, et d'autre part ce qu'on appelle le gonos, le genetes, le tokos, tous des mots qui indiquent quoi? L'engendrement, qui a un rapport strictement animal. Enfin, il y a toute une série d'arguments qu'on pourrait donner. On pourrait par exemple examiner aussi comment dans la pièce, avec les mots grecs, la problématique du mariage apparaît. Et bien, en grec, il y a deux mots. Il y a le mot gamos, qui indique le rapport d'alliance entre un homme et une femme. Et puis il y a le mot enguesis qui indique un autre type de rapport qui est le rapport de transmission, hein, du père aux enfants. Et on connaît la formule canonique du mariage: quand un père donne en mariage sa fille au gendre futur, il lui dit en grec Tauten, celle-ci, gnesion paidon, ep arrotoi soi didomi, celle-ci je te la donne en vue d'un labour pour des enfants, on traduit d'habitude véridique, ça veut dire qu'ils peuvent hériter, hein? Et en plus de cela, je te donne une dot, mes avoirs, mes prérogatives, etc. Et cette dot est conditionnelle, parce que si cette alliance n'engendre pas des enfants qui pourront être reconnu comme citoyen par le père et donc hérité, eh ben, le père a le droit de dire « tu me rends mes avoirs et tes prérogatives et je le donne à un autre gendre potentiel qui me donnera des petits-fils à qui je pourrai transmettre, etc. » C'est de ça qu'il s'agit. Dans la pièce elle-même, les mots exacts de cette formule du mariage, qui ne parle pas de l'alliance mais de la transmission, apparaissent à deux reprises, très clairement. Ce qui occupe Œdipe, ce n'est pas qu'il soit marié, mais c'est que ce mariage, si ce n'est une alliance et pas une mésalliance, rend possible la transmission de son statut privilégié, de ses pouvoirs. Alors, revenons à la clinique. Si vous regardez la pièce et vous la lisez avec le fond des hypothèses médiationnistes sur ce que c'est les perversions au pluriel, il y en aurait quatre à titre d'hypothèse, et les psychoses, il y en aurait quatre aussi. Oui, quoi? Il n'y a rien de l'ordre de la perversion. Oui, bien sûr, c'est un incestueux, mais il l'est seulement parce qu'il ne sait pas. La question de l'abus d'identité, il se trompe, oui, il croit qu'il est étranger, il ne l'est pas. Mais on ne peut pas parler d'abus d'identité à ce niveau-là. Il n'y a rien qui relève d'une séduction, d'une corruption, d'une indécence, d'une impudicité, rien. Par contre, si vous regardez à partir de la théorie de la médiation, ce qu'il y aurait en matière, bon, citons, hein, c'est des hypothèses, de paranoïa, de rapport sadomasochique, d'une part, ou puis de schizophrénie et de narcissisme, d'autre part, vous allez trouver du matériel. Il y a une scène d'allure paranoïaque, la scène où, justement, il est en dispute avec Créon et Tirésias. De quoi s'agit-il? Ils sont en train de comploter contre moi. Ils n'imaginent pas qu'ils puissent rendre service comme lui au nom d'un autre savoir, d'autres compétences. Et donc, forcément, comme sa manière est la seule de rendre service, ben les autres sont en train de comploter, ils vont lui prendre son pouvoir. C'est dans le texte. Dans la discussion qu'il a avec Tirésias, qu'est-ce qu'il fait? On est dans le registre, au sens médiationniste du mot, pas au sens freudien du sadomasochisme. Qu'est-ce qui se passe? Il l'insulte. Il avilit. Il lui dit, tu ne sais rien à rien. Tu n'as aucun service à rendre à la cité. Et que répond le prêtre? Il dit, mais tu sais mon gars, toi tu crois savoir tout, et tu as ta manière de rechercher la vérité, mais moi je te dis, je parle au service de quelqu'un d'autre, le dieu Apollon, et en plus, je suis un citoyen comme toi, même si tu es le tyran, et je te parle d'égal à égal. Voilà mes prérogatives, voilà le pouvoir que je t'exerce. Que ça te plaise ou non. Hein? Ouais. Ce qui est le plus frappant, il n'y a rien qui relèverait d'une problématique schizophrénique. Par contre, il y a tout ce qui relève d'une problématique narcissique, encore une fois au sens médiationniste du mot, c'est-à-dire pas au sens de l'amour propre, mais au sens de la fierté, c'est-à-dire de la dignité surdimensionnée. Et je reviens là à mon point de départ. Qu'est-ce que ça veut dire exercer le métier de tyran? Parmi tous les fragments possibles de cette unité présumé qu'on appelle l'établissement, il y en a une qui domine tout le tableau, c'est le savoir, et ça c'est dès le début de la pièce. Il est présenté comme quoi? Comme le type au pouvoir parce qu'il sait. Son nom même indique l'ambiguïté, parce que Oedipus c'est le type au pied gonflé, mais c'est aussi le type qui sait. Oida, l'énigme des pieds, ceux qui marchent à trois pieds, à deux pieds, à quatre, etc. Hein? Il y a un ego surdimensionné, c'est-à-dire qu'il y a au fond une espèce de réification d'une différence. Il y a la différence entre le savoir mantique et le savoir judiciaire qui est le sien, de type nouveau dans la cité, effectivement. Et il n'imagine pas que quelqu'un d'autre puisse rendre service autrement que lui. C'est là que ça se situe. Je reviens donc à mes questions initiales. Qu'est-ce que ça veut dire ces espèces d'états limites où quelqu'un, au lieu de chercher des équivalences en situation variable pour la polysémie d'une spécialité, d'une compétence professionnelle, d'un service composant, et premier état limite, il n'y a qu'une équivalence possible. Deuxième état limite, il y a toutes les équivalences possibles en même temps. On est dans cette problématique-là. Encore faut-il avoir les outils pour le lire. Voilà, je vous remercie.